Très chers amis, nous sommes rassemblés en ce 21e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Sophaniye pour prier pour l'unité, pour fêter notre Mère du Ciel, qui s'est dérangée pour venir nous dire « Vous n'avez donc pas honte d'être divisé ». Cela fait presque 1000 ans que l'Orient et l'Occident sont séparés, les Grecs et les Latins. Et avant cela, au 5e siècle, à la suite du concile de Chalcédoine en 451, les Coptes, les Arméniens et les Syriens s'étaient séparés de l'Église byzantine pour une incompréhension au sujet de la personne du Christ qui est unique en deux natures. Un faux problème, on le découvre aujourd'hui. Il faut avoir le regard de saint Paul pour se rendre compte de la profondeur du péché contre l'unité des chrétiens. Saint Paul le dit, et il y revient souvent dans ses lettres, « Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Christ, un seul baptême, une seule foi, un seul esprit. Comment peut-on être disciple du Christ, se prétendre tel ?» et être séparés les uns des autres. Le Christ est la tête, et l'Église est son corps. Est-ce qu'une tête peut avoir deux corps? Ce serait monstrueux. Et donc, les schismes sont des péchés monstrueux, car ils divisent le Christ. Et Jésus a prié. Il a prié longuement, la veille de sa mort, pour que tous ceux qui se réclament de son nom soient un, comme le Père et lui sont un. Qu'ils soient un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Donc voyez la portée de notre péché de schisme. Nous empêchons les païens de reconnaître en Jésus l'envoyé du Père. Nous empêchons les juifs de reconnaître en Jésus le Messie de leur espérance 2 fois millénaire, et même 4 fois depuis la venue du Christ. C'est un grand péché. Je me souviens, Nahed, que tout le monde ici connaît, avait été invité à Paris par les Latins pour faire un témoignage. Et j'ai eu peur que les Coptes orthodoxes, l'Église copte orthodoxe de Paris, n'en prenne ombrage. Alors j'ai téléphoné à Nahed pour lui dire, « Nahed, penses-tu que ta visite chez les catholiques de Paris pourrait faire du tort aux Coptes orthodoxes de Paris ?» Nahed était furieuse. Elle m'a dit, « Moi, je ne suis ni catholique, ni orthodoxe, ni protestante. J'ai été invité aux États-Unis par les protestants et je suis orthodoxe. Et les orthodoxes se sont plaints. Eh bien, moi, je suis Nahed de Jésus. Je suis Nahed du Christ. J'appartiens au Christ. » Bien sûr, elle est dans une église, puisqu'elle a reçu le baptême chez les Coptes orthodoxes. Mais elle sait que ce baptême a fait d'elle un membre du Christ. Que faire pour que se rétablisse l'unité des chrétiens? Que faire pour que les blessures soient guéries? Il faut certainement recourir à la prière. Il n'y a que la prière qui puisse guérir les blessures. Il faut aimer, respecter, admirer nos frères. Les catholiques doivent admirer, aimer et respecter les orthodoxes. Et les orthodoxes doivent aimer, respecter et admirer les catholiques. Il faut que chaque groupe de chrétiens découvre dans l'autre groupe toute la grandeur de l'œuvre de Dieu. Il faut que nous, catholiques, nous admirions la vie monastique des orthodoxes, l'iconographie des orthodoxes. Et les orthodoxes doivent admirer cette expansion missionnaire de l'Église catholique qui se dépense partout dans le monde pour faire connaître le nom du Christ. Mais il ne suffit pas d'aimer et d'admirer. Il faut aussi réfléchir et découvrir ce qui nous sépare. Et essayer de résoudre les problèmes qui naissent de nos différences de culture, car, il faut bien l'avouer, les divisions sont souvent des conséquences de cultures différentes. Quand l'Occident a cessé de parler grec et quand l'Orient a cessé de parler latin, un fossé s'est creusé entre les Grecs et les Latins. De plus en plus, on avait du mal à se comprendre. Ce n'était plus la même culture. Et petit à petit, le fossé s'est creusé. Il faut savoir remonter la côte, redécouvrir toute la beauté de l'Église du Christ. Il faut savoir, par exemple, que l'Église est fondée sur Pierre, que la fête de Pâques, telle qu'elle est actuellement déterminée, dépend du calendrier grégorien. Il y a des choses précises qu'il faut savoir, qu'il faut avoir le courage d'admettre. Pour parler, par exemple, de la fête de Pâques, nous savons que le calendrier julien contient des erreurs. Il était imprécis. Et petit à petit, il y avait un décalage. Et Rome, le pape Saint Grégoire le Grand, a voulu corriger les erreurs du calendrier julien. Et donc, il a ajouté des jours au calendrier julien pour qu'il soit conforme à la nature, à l'astronomie. Et c'est pourquoi il y a cette différence de date entre les orthodoxes et les catholiques. Il faut beaucoup d'humilité de la part des orthodoxes pour reconnaître que ce calendrier julien qu'ils suivent encore est faux. Il y a ensuite la grande question de la primauté de Pierre. Quelle merveille de lire les pères de l'Église, ceux d'avant le schisme, et de découvrir combien ils avaient foi en l'autorité de l'évêque de Rome. Au concile de Chalcédoine, quand Saint Léon le Grand a fait lire le texte qu'il a écrit sur les deux natures du Christ qui sont unies dans l'unique personne du Christ, les orientaux ont crié « Léon a parlé, Pierre a parlé ». Et lorsqu'on lit le calendrier, la géographie, les fêtes des saints, et qu'on nous dit à la fin du récit d'un saint, ce saint est fêté aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. On vibre de joie. On se dit voilà l'unité. Les orthodoxes comme les catholiques fêtent aujourd'hui tel saint. Quelle force, quelle joie de se trouver unis. Et quand nous pensons à la primauté de Pierre, est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle? Et lorsqu'on pense que sa sainteté Jean-Paul II, qui est le défenseur de la foi comme tout évêque de Rome, comme tout pape, il préside à l'unité et à la charité. Si Jésus a choisi Pierre comme chef des apôtres, c'est pour assurer un principe visible de l'unité de l'Église. Et quand Jean-Paul II nous dit « Je suis prêt à discuter avec nos frères orthodoxes les modalités de l'exercice de la papauté », vraiment, quelle humilité. Le pape ne s'accroche pas à son privilège d'être le premier dans l'Église, d'être le principe de l'unité, le principe de la charité. Il accepte qu'on remette en question non pas ce que Jésus nous a donné, à savoir la primauté romaine, mais les modalités d'exercice de cette primauté. Donc il est prêt à vivre dans l'ombre, à laisser ses coopérateurs prendre peut-être une place beaucoup plus grande dans l'exercice du gouvernement de l'Église. Mes chers amis, la Sainte Vierge s'est dérangée, pour ainsi dire. Elle est venue à nous pour nous demander de travailler à l'unité des chrétiens, des catholiques et des orthodoxes. Et nous savons que c'est seule la prière, seul l'Esprit Saint peut refaire ce que le péché a détruit. Et précisément, vous savez que l'huile est le symbole très riche de l'Esprit Saint. Parce que l'onction d'huile pénètre le corps comme la grâce pénètre l'âme. Et Marie, qui nous demande de travailler à l'unité des chrétiens, nous a donné ce signe très riche de l'huile qui exsude des icônes et des mains de Myrna. Béni sois-tu, Vierge Marie, notre Mère. Toi qui te penches du haut du ciel sur tes enfants, toi qui les appelles à la vérité de la foi, à la vérité de l'amour, et qui es prête à guérir leurs blessures, entends notre prière en cet anniversaire de tes apparitions et donne-nous la joie de connaître la communion parfaite entre tous les chrétiens. Amen.